Imagine que tu assistes, un peu ennuyé, à un spectacle de combat médiéval près d'un plan d'eau quand soudain, un bruit bizarre se manifeste, l'eau se met à se mouvoir et surgit alors dessous l'eau un énorme navire viking avec de superbes statues de guerriers. Et tandis que le bateau est aussitôt pris d'assaut par les combattants qui luttent au milieu du feu, les statues se mettent à bouger. Et tu réalises qu'en fait, ce ne sont pas des statues, mais de vrais gens qui prennent aussitôt part au combat. Ça ressemble à un film d'action Netflix, mais c'est le Puy du Fou. Le parc d'attractions, plusieurs fois élu le meilleur du monde, est mon parc à thème préféré de tous les temps. Et c'est là-bas que je t'emmène dans ce nouvel épisode d'Hola Friendship. Coucou et bienvenue. Avant de me lancer, je t'invite à t'inscrire en tant que membre sur Patreon pour accéder aux anciens épisodes, être informé des prochains et avoir accès au mini-magazine qui accompagne chaque semaine les épisodes et qui te propose la transcription trilingue, des images liées au contenu, une liste de vocabulaire, des expressions et des exercices de compréhension. Alors, il faut savoir que je ne suis pas très fan des parcs d'attractions, des manèges, des jeux à sensations, des spectacles. Ce n'est pas ma tasse de thé, donc c'est pas ce que je préfère. Du coup, quand je suis allée pour la première fois au Puy du Fou, même si je savais qu'il y avait un contexte historique, je n'étais pas très emballée. Donc, emballée dans ce contexte, c'est-à-dire passionnée, excitée par la perspective. J'y suis allée à reculons, donc on dit aller à reculons, comme si au lieu d'avancer, on marchait en arrière. Donc j'étais sur l'estrade en plein soleil et je me disais, oh là là, une journée à assister à des spectacles du Moyen-Âge, ça va être compliqué. Mais ça, c'était avant de voir des danseuses espagnoles danser dans un théâtre qui s'inondait progressivement, donc s'inonder, se remplir d'eau, d'avoir vu un donjon de 16 mètres de haut tourner sur lui-même, d'avoir senti le passage de plus de 300 oiseaux de proie passer à quelques centimètres de ma tête, d'avoir parcouru une tranchée de Verdun sous les bombardements en pleine guerre 14-18 et d'avoir assisté à un féerique spectacle nocturne subaquatique, donc subaquatique sous l'eau. Les effets spéciaux, les décors ultra réalistes, c'était incroyable, c'était comme vivre dans un film. J'en ai pleuré d'émotion, c'est inoubliable. Donc on comprend aisément pourquoi le Puy du Fou a été élu deux fois meilleur parc d'attractions du monde. Pour les Français, bien sûr, c'est bien plus qu'un simple parc d'attractions, c'est un reflet de notre histoire. Il faut savoir que le Moyen-Âge, auquel on a tendance à identifier le parc, fascine les Français. En fait, si on veut comprendre les Français, leur comportement ou même la langue, il faut remonter au Moyen-Âge. C'est une période qui s'est étendue du 5e au 15e siècle, donc c'est très long, et presque toutes les expressions françaises datent de cette période. Je vais vous en citer deux. Feuille de chou. On dit d'un journal que c'est une feuille de chou quand c'est un journal qui a peu de valeur. Donc à l'origine, la feuille de chou, donc le légume, hein, cabbage, est un ancêtre du papier hygiénique, du papier toilette. Donc on l'utilisait fréquemment avant l'invention de celui-ci. Donc quand on dit d'un journal que c'est une feuille de chou, c'est un journal de peu de valeur, qui n'est pas de très bonne qualité en termes d'écriture. Ensuite, passer une nuit blanche. Passer une nuit blanche, c'est ne pas dormir de toute la nuit. À l'origine, avant de se faire adouber, donc d'être fait chevalier et de partir à la guerre, les chevaliers passaient la nuit à prier dans un lieu sacré, une église ou une chapelle, habillés de blanc, car cette couleur est celle de la pureté. Donc je parle de Moyen-Âge parce qu'avec le Puy du Fou, on s'immerge dans la vie de l'époque à travers les villages et surtout les spectacles. Toutefois, vous allez le voir, contrairement à l'idée reçue, donc à la croyance populaire, le Puy du Fou ne se limite pas au Moyen-Âge. On peut y voir des spectacles de l'Antiquité, de la Renaissance, de la Belle Époque et de la Première Guerre mondiale, entre autres. Donc globalement, le Puy du Fou, c'est un grand parc où on joue des spectacles qui durent entre 15 et 30 minutes en journée, jusqu'à 1h30 la nuit, et tous sont liés à l'histoire de la France. Alors, voyons où se trouve le Puy du Fou. Il se trouve en Vendée, qui est dans la région des Pays de la Loire, dans l'ouest de la France. La Loire, ça vous dit quelque chose? C'est le fleuve qui est bordé par les fameux châteaux, les châteaux de la Loire, que je vous conseille de visiter si vous allez à Paris. Donc, il y a de très bons vignobles, hein. Les vignobles, ce sont des terrains où l'on exploite des vignes pour fabriquer le vin. Donc, la Vendée est très connue pour la guerre de Vendée qui a eu lieu pendant la Révolution française. Les Vendéens se sont révoltés contre le gouvernement de l'époque et cette révolte a coûté la vie à plus de 240 000 personnes. Donc, historiquement, c'est une région très chère à la France. Le fondateur du Puy du Fou s'appelle Philippe de Villiers. C'est un entrepreneur, un politique et un écrivain français. Il a des origines nobiliaires, c'est-à-dire liées à la noblesse. On peut le reconnaître par le de qui est accolé à son nom de Villiers. Donc, au tout début, en 1978, Philippe de Villiers a 29 ans. Il est passionné d'histoire et de sa région, et il crée le spectacle nocturne appelé la Cinécennie qui retrace l'histoire de la région. C'est un spectacle grandiose de nuit jamais vu qui deviendra ensuite le célèbre parc à thème Puy du Fou. Donc le Puy du Fou, comme on le connaît aujourd'hui, a ouvert ses portes en 1989 et il reprend des éléments historiques de l'histoire de France et les adapte pour en faire des spectacles grandiose. Alors généralement, les personnages qui y sont représentés défendent leur village, leur royaume, la monarchie ou le catholicisme face à des ennemis venus de l'extérieur. Donc ça reflète vraiment l'esprit révolutionnaire des Français au fil des siècles. Alors comment ça se passe une fois qu'on est à l'intérieur? On peut se balader dans les différents villages du Moyen-Âge à différentes périodes. Et on peut voir des artisans travailler avec des techniques ancestrales. C'est plutôt pittoresque. Mais franchement, l'attrait du parc, selon moi, c'est vraiment les spectacles. Chaque spectacle est comme le plateau de tournage d'un film. Certains ont des effets spéciaux spectaculaires et d'autres sont plutôt immersifs, on va dire émotionnels. Je vais vous mettre des photos sur la transcription pour que vous puissiez les admirer. Donc, parmi les plus connus, dans les spectacles de jour, on a par exemple ceux qui misent sur l'action, le signe du triomphe, où on se trouve dans un gigantesque stadium gallo-romain et on assiste à des combats de gladiateurs, des courses de chars et des batailles épiques, notamment avec des lions. C'est époustouflant, donc à couper le souffle, incroyable. On a également les Vikings, dont je vous ai parlé au début, hein, où on assiste à l'assaut, donc à l'attaque d'un fort par les terribles guerriers du Nord, et on assiste à un bateau qui émerge de sous l'eau. C'est fabuleux. Les Chevaliers de la Table Ronde, qui est un spectacle épique, ponctué de rebondissements, donc des rebondissements, hein, des événements, une action nouvelle qui surgit de manière inattendue. Et finalement, le bal des oiseaux fantômes. Donc, c'est un ballet aérien qui met en scène plus de 300 oiseaux de proie qui forment comme un toit au-dessus de nos têtes. Oh, c'est incroyable. Alors, outre ces spectacles plutôt d'action, on a des spectacles immersifs comme le Mime et l'étoile, qui est une émouvante histoire d'amour, et le dernier panache où on suit le destin tragique d'un officier de marine dans son ultime combat pour la liberté. Donc en fait, il y a une tribune tournante et des décors à 360 degrés. Donc on suit l'action en mouvement. C'est comme si on était assis sur le travelling d'un film vivant. C'est incroyable. Et on peut également citer Les Amoureux de Verdun. Donc c'est un spectacle qui se passe dans l'obscurité, sous le bruit des bombardements. Et on traverse une tranchée, donc hein, les tranchées, les longs trous creusés dans la terre où vivaient les soldats hein, durant la Première Guerre mondiale, en suivant l'échange épistolaire entre un soldat et sa fiancée. Donc épistolaire, ça a rapport à la correspondance par lettre écrite. Donc on assiste à cet échange entre ces deux êtres. C'est très émouvant. Par rapport au spectacle de nuit hein, dans les incontournables, donc incontournables qu'on ne peut pas contourner, éviter, qu'on doit absolument voir, on a les Noces de feu Alors, dans ce spectacle, on assiste aux noces. Donc, les noces, c'est le mariage. Un voyage de noces, c'est le voyage post-mariage, hein. On dit aussi partir en lune de miel. Donc, les noces, le mariage, les plus romantiques et fantastiques qui soient, avec des acteurs et des cascadeurs subaquatiques. Donc, je vous le rappelle, hein, dessous l'eau, qui évoluent sur une scène de plus de 7000 mètres carrés. Donc, il y a d'immenses décors immergés et des costumes électroluminescents. C'est un spectacle vraiment poétique, féerique, qui a été élu meilleur spectacle de l'année en 2020. Outre les noces de feu, on a la cinécénie, hein, dont je vous ai parlé un peu plus tôt. C'est une scène de 23 hectares devant le château du Puy du Fou, où on assiste à une fresque géante qui compte plus de 2500 acteurs et danseurs qui retracent 7 siècles d'histoire en mêlant faits réels et légendes françaises. On commence au Moyen-Âge et on termine à la Seconde Guerre mondiale. C'est 28 000 costumes, 1h30 de spectacle qui se joue 28 fois dans l'année. Alors à noter, les acteurs sont tous bénévoles. C'est-à-dire, un bénévole, c'est quelqu'un qui fait quelque chose sans être payé. D'ailleurs, le Puy du Fou est connu pour cette communauté de bénévoles, au total 4300. Ils ont même un nom, on les appelle les Puy-Follets. Bien sûr, le parc embauche aussi des salariés à l'année et des saisonniers. J'ai une anecdote assez sympa par rapport au Puy du Fou. Quand on y allait, ma fille avait 5-6 ans. On n'a pas assisté au spectacle de nuit car il y avait des canons, donc on craignait que ça l'effraie. Et je ne sais pas pourquoi, on a eu l'idée d'aller camper. Je n'avais pas campé depuis 25 ans, on n'avait rien à part une petite tente qu'on avait achetée à l'improviste. Donc on est allé manger, on est revenu, il faisait nuit. On s'est couché, on avait donc planté la tente durant la journée. On s'est couché et là, on s'est rendu compte qu'il faisait jour à l'intérieur. En fait, on avait planté la tente sous un lampadaire. Et en plus de ça, on était à côté du Puy du Fou, le soir où il jouait la cinécénie, avec la musique, les canons, c'était impossible de dormir. Une sacrée expérience. Alors, d'un point de vue hébergement et gastronomie, le Puy du Fou propose différentes expériences de restauration, des banquets à la médiévale ou des mets, des repas délicats au buffet royal de Louis XIV, de quoi plaire à tout le monde. On peut aussi se loger sur place, notamment à la citadelle. Donc une citadelle, c'est un édifice fortifié qui servait à protéger une ville. Et ici, on l'a construite pour y instaurer des chambres. Donc on y rentre par un grand portail et on se retrouve dans un véritable paysage médiéval. C'est très immersif. Donc voilà, si vous voulez changer un peu des parcs d'attractions traditionnels et vous imprégner de l'histoire de France, c'est vraiment une expérience que je vous conseille. Je dirais même que c'est l'expérience d'une vie. Le Puy du Fou. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a intéressé. Je vous donne rendez-vous sur Patreon où je vais bientôt intégrer des lives et des vidéos extra pour les membres. Donc inscrivez-vous pour être sûr de ne rien rater. À bientôt pour le prochain épisode.